18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et vendredi, bonsoir, bonjour chers amis auditeurs partout en France qui nous écoutez et qui nous suivent. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. Vendredi, évidemment, on va essayer de partager avec beaucoup de légèreté l'actualité du moment. Et au sommaire, ce que je vous propose, vous le savez, c'est votre magazine, votre émission Les Informés, où on vient commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors au sommaire, qu'est-ce que je vous prépare ? Bien, pour ce week-end, d'abord on va parler de La Cour des Miracles. Vous savez, c'est un film, un beau film, unique en primaire justement, où on confronte les inégalités. On en parle et vous savez, et bien sans filtre d'ailleurs, les réalisateurs sont avec nous dans une poignée de minutes. C'est nos invités dans Les Informés. C'est le film du moment, La Cour des Miracles, qui fait parler lui. Et bien, vous savez quoi ? Les deux réalisateurs, normalement si tout va bien, seront avec nous dans une poignée de secondes, ici même, dans Les Informés sur BFM. Et puis, vous savez, on reviendra sur l'actualité. L'actualité qui nous a retenu notre attention. On reviendra sur, avec les débattants influenceurs qui seront sur le plateau de 18h30 à 19h30. Et reviendra sur trois sujets. La réforme des retraites à justement passage de coup de force, 49-3, concertation. Que faut-il retenir ? Les affrontements, vous savez, malheureux. On reviendra aussi sur ces violents affrontements à Rennes. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant ça. Ce qui m'intéresse, moi, finalement, c'est que dans ces quartiers populaires, comment est-ce qu'on a une explication de ces regains de violence ? On reviendra sur le discours de Poutine qui durcit un peu plus le ton contre l'Occident après ses annexions en Ukraine. Clairement dans son discours, les amis, il accuse l'Occident de vouloir faire de la Russie une colonie. C'est ce qu'il dit. Ça mérite une clochette. Eh bien, on va en parler tout à l'heure. On prendra le temps de parler de cette guerre en Ukraine où, évidemment, bien sûr, comment dirais-je, Zelensky lui répond et qui va lui-même demander l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'OTAN. 18h30, c'est Michel Taube, l'éditorialiste, comme chaque vendredi, qui viendra nous livrer son point de vue sur les sujets d'actualité, notamment Hassan Iqoussen et l'Iran. Voilà les deux sujets qui ont retenu donc l'attention de Michel Taube, qui est le patron d'Opinion Internationale. Voilà, et puis vous, au 01 53 48 3000, vous le savez plus que jamais, c'est vous qui êtes prioritaire. Vous êtes de plus en plus nombreux. Qu'est-ce que c'est beau, magnifique. Double clochette. Oh oui, c'est beau. Ben merci de votre fidélité, tout simplement. Allez, Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et Les Informés, présenté par Adil Farkan.
L'interview du jour, c'est parti.
Les Informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec un excellent film qui est, lui, d'actualité, parce que l'éducation nationale est d'actualité aussi. C'est La Cour des Miracles. Je suis avec les réalisateurs Karine May, mais également Hakim Zouhani. Bonjour Karine May, bonjour Hakim Zouhani.
Bonjour.
Quel plaisir de vous recevoir sur dans Les Informés. Vous savez, d'abord, je voulais vous féliciter parce que je vois que vous êtes dans l'actualité des médias concernant La Cour des Miracles. Quel est votre premier sentiment, votre première réaction ? Tout le monde parle de vous.
Bah écoutez, c'est toujours bon à prendre. Après, nous, on a fait un film. À chaque fois qu'on écrit un film, j'imagine que c'est pareil pour les bouquins, pour tout ça, c'est que c'est des choses qui nous touchent et qu'on a un peu dans le ventre. Donc, on a envie que les gens le voient, en fait, et suivent un peu nos histoires, parce qu'on y croit.
Vous y croyez, Hakim, vous aussi, vous partagez oui. Ça, le fait qu'un oui. film, évidemment, parce que c'est la consécration, un film, hein. M'a-t-on dit, d'après des amis qu'on a en commun, notamment Nadir Dandoun, que je salue, c'est un long combat hein, que vous avez mené avant de retrouver cette consécration. Qu'est-ce que vous savourez comme moment, Hakim et Karine ?
Non, mais c'est sûr que effectivement c'est le parcours du combattant. Déjà, faire un film en soi, ça tient du miracle, vraiment. C'est-à-dire, effectivement, c'est quand même une aventure qui dure sur plusieurs années. Nous, on a eu l'idée, mais vraiment l'idée de ce film il y a 7 ans. Donc voilà, on a fait 2 enfants entre-temps. Donc voilà, pour vous donner une
sorte de, bravo.
D'échelle dans le temps pour vous rendre compte. Mais effectivement, là, ça sort en salle. Après, dans un contexte un peu compliqué, mais en tout cas, on est super ravis que le film existe. Et voilà, après que les spectateurs s'en emparent, qu'ils fassent son bout de chemin. En tout cas, nous, on l'a beaucoup accompagné, on a fait beaucoup d'avant-premières. Et c'est clair que malgré ce ton, c'est parce que ça reste une comédie, hein, le film est une comédie, il s'inscrit dans ce genre-là. Mais voilà, on essaie d'avoir un ancrage territorial et politique assez conséquent, où on essaie d'avoir un regard un peu plus juste sur ces quartiers populaires que le cinéma français a du mal à filmer.
C'est pour ça que c'est vraiment bravo à vous deux. Karine May, Hakim Zouhani, dites-moi, vous êtes vous-même issu des quartiers populaires, d'Aubervilliers plus précisément. Comment est née cette histoire? Comment elle a vu le jour? Parce que c'est vrai que vous avez dit vous-même, Hakim, c'est une comédie dramatique. Donc quand même, hein, ce qui a retenu mon attention, il y a quand même une tournure politique. Hein.
Bah, je ne sais pas comment on peut faire un film sans être un peu politique, quel que soit le début, le point de vue. Il y a toujours un point de vue d'auteur, sinon pour moi, ce n'est pas une œuvre, quoi. Donc nous, ayant grandi à Aubervilliers, on a grandi en plein dans l'éducation populaire. Le personnage de Zaya, joué par Rachida Brakni, qui fait la directrice de l'école, c'est nous, en gros. C'est
vraiment plus d'Eric Cantona, oui.
Ah, exactement. Et surtout une réalisatrice, une comédienne, une chanteuse, avant d'être la femme de...
Exact. Vous avez raison, vous avez raison.
Et elle est, voilà, elle incarne un peu, elle raconte, c'est nous, en fait, ce personnage. Et ça raconte tout ce que nous on a connu bah Aubervilliers. Enfin, on a grandi là, ça nous a construit, ça fait les adultes qu'on est aujourd'hui. Et c'est un peu toutes ces problématiques de mixité sociale, de ville qui a changé, qui s'est paupérisée, qu'on raconte, mais tout en ayant son, comme disait Hakim, comique, parce que je pense que on voulait surtout pas faire du discours et imposer aux gens une vision des choses, ouais. Mais on pense vraiment qu'on peut rire et réfléchir en même temps.
Vous êtes, pour nos auditeurs qui vous écoutent partout en France, vous êtes vous-même issu du monde de l'enseignement.
Oui, alors j'ai rendu mon tablier, mais j'ai enseigné 15 ans en école maternelle et élémentaire à La Courneuve et à Aubervilliers. J'étais mutée dans en Seine-Saint-Denis, donc ça m'allait
alors,
très
Karine
bien.
May, Karine May, ça m'oppose à vous poser la question. Est-ce que c'est une des raisons aussi, justement, de traiter du milieu scolaire, de parler, justement, des effets parfois, comment dirais-je, malsains, hein, de vous avez fait référence au quartier populaire. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a poussé à raconter les histoires, c'est pas l'histoire, les histoires de l'éducation nationale à travers, évidemment, le mode de fonctionnement?
Oui, bien sûr. Bah, après, on avait une matière. On avait Hakim à bosser aussi dans le milieu de l'animation socioculturelle. On avait une matière incroyable. La Seine-Saint-Denis, c'est quand même l'endroit où tous les gens débutent. Donc, c'est un début de scénario. Il y a plein d'idées. Enfin, il y a plein de pistes possibles. Donc, c'est très riche. Et surtout, nous, c'est aussi une façon de raconter ce que je vous disais au début, ce qui nous met en colère, qui nous amuse et qui nous touche. Donc ça, c'est une belle matière pour écrire des histoires si vraiment on y croit et je veux dire, on les aime, nos personnages.
Il y a une déclaration que vous avez faite, vous deux. On n'est pas dans le jugement, ni justement dans le machiavélisme. Je vais y arriver. C'est comment? Oui, oui, exactement. Et c'est votre déclaration, ça?
Ouais. Oui, 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 c'est clair. C'est clair que nous... voilà, on fait notre premier film, on l'a sorti.
Vous avez dit
en
jugement, ni le machéisme des miracles.
C'est ça, on essaie d'avoir un regard un peu plus complexe et sur les personnages et sur la situation. C'est-à-dire, on ne juge personne, il y a des personnages qui sont en contradiction dans le film, mais on leur donne un peu raison à tous les deux, donc voilà, on est tout le temps sur ce fil, quoi.
Pourquoi vous avez dit, on est sur un film qui fait valser les clichés?
Parce que je pense qu'on raconte des parents, une directrice qui voit arriver une école magnifique pour les Parisiens, bobos, écolos, juste à côté. Et ils voient que les Parisiens ne vont pas se mélanger avec eux. Et là, s'ensuit toute une aventure. Et pour nous, c'était aussi raconter que, bon, on parle beaucoup de repli communautaire, etc. Dès qu'on parle de quartier populaire, on voulait montrer que l'entre-soi est beaucoup de l'autre côté, en tout cas. Il est peut-être partout, mais on ne parle jamais de ça. Par exemple, il y a le personnage de Madame Nedjar, qui est c'est une mère maghrébine qui arrive en France il y a 4 ans et qui n'arrête pas de dire à la directrice « Où sont les blonds ? On voit plus de blonds. » Et ça, c'est arrivé à Montpellier. Et donc, on avait suivi l'affaire. Ça nous avait fait sourire parce qu'on voit jamais ça, ce point de vue-là, en fait. De gens qui arrivent d'ailleurs et qui disent « Mais où sont les blonds, en fait ? On s'est trompé d'école ou comment ça se passe ? Pourquoi on n'a pas le droit d'être mélangé aux autres, en fait ?» Et voilà, on trouvait que c'est un nouveau point de vue, en tout cas.
Dites-moi, Karine et Hakim, La Cour des Miracles, c'est combien d'années pour évidemment acheminer ce film, poser le scénario, poser la production, poser la réalisation? Ça vous a pris combien de temps précisément?
Bah, je veux dire, on a eu l'idée il y a 7 ans, mais après on a fait des cours entre-temps, on était sur d'autres projets, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait des enfants. Mais en réalité, ça a duré 4 ans, l'aventure. Bah, vraiment, du développement du scénario, recherche de financement, quatre ans et demi, parce que c'est vrai que avec l'année Covid, il y a eu une grosse interruption à tous les niveaux, quoi.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, je vous pose clairement la question, Karine et Hakim, les inégalités se creusent davantage, justement?
Oui. On peut le dire, parce qu'en plus, c'est un...
Oui, c'est qu'en fait, nous, on s'est vachement basé sur un rapport qui est sorti en 2020, donc c'est un rapport de l'OCDE, et en fait, la conclusion, c'était que la France est le pays, au niveau des écoles, est le pays le plus inégalitaire des pays développés. Donc ça, c'est clairement, c'est pas la fiction, c'est la triste réalité. Et donc c'est un rapport qui est fait pour les politiques, donc ils sont conscients des choses. Mais c'est-à-dire que l'environnement social dans lequel gravite l'enfant, c'est celui où il y a le plus d'incidence ensuite sur la réussite scolaire. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on est derrière les États-Unis, derrière l'Espagne, derrière l'Italie, voilà, tous les pays développés, on est vraiment on est le bonnet d'âne, quoi, malheureusement.
Karine?
Je confirme ce que dit Hakim Zouani. C'est vrai. Non, mais c'est... Franchement, on s'est vraiment appuyé sur des faits. On n'a rien inventé. Certains instituts sont recrutés à Pôle emploi. Donc là, la France s'est rendue compte de ça en septembre, mais nous, en Seine-Saint-Denis, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Donc on n'est pas visionnaire, on n'invente rien. Hein. La réalité, malheureusement, fournit beaucoup de matière réelle et on est. Enfin, je pense que c'est une fiction qui est tout à fait réaliste.
Une fiction qui est tout à fait réaliste. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent partout en France, justement, pour votre film, La Cour des Miracles?
Moi, je dirais qu'il va pleuvoir ce week-end déjà. Donc, n'hésitez pas à y aller en famille. Je ne parle pas que pour mon film. C'est-à-dire que nous, on fait des films aussi pour rencontrer le public. On voit bien dans les débats ce que ça suscite chez les gens. Je pense que le cinéma, c'est un des derniers. Alors, il faut aller. Les places coûtent cher. Il faut essayer d'aller dans les cinémas de quartier qui sont moins chers. Mais je pense que c'est le seul endroit où on peut échanger, où on peut se comprendre les uns les autres et se retrouver en fait à l'écran. Nous, c'est ça qu'on veut en fait retrouver. Je veux dire, c'est sympa les films dans le 5e arrondissement de Paris, mais c'est super aussi de parler de toutes les classes sociales et en l'occurrence des classes populaires qui sont la classe qu'on aime raconter parce qu'on en est issu et qu'on en est très fiers. Donc c'est un film de famille et il faut pas hésiter à y aller ensemble. Et je vous assure, même si on parle de choses graves, je pense que c'est drôle. J'essaie d'être humble, mais je pense que c'est drôle.
Dites-moi, Karine et Hakim, vous comptez aller à la rencontre des téléspectateurs, enfin des spectateurs pour le coup?
Ouais,
il va y avoir des rencontres, débats.
Ouais, on en a fait plein. Ce soir, on est à Saint-Ouen. Dimanche, à je sais plus 17h, je crois, on est à Bagnolet. On va beaucoup en région. On y a été beaucoup. On fait la tournée. Hein. C'est la promo là.
C'est la promo. Bravo. Vous allez venir sur notre antenne la semaine prochaine?
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir.
Partagez, sachez-le. Mille merci. Et je voulais vous féliciter. Bravo pour votre film La Cour des Miracles. Bravo Karine May et bravo à Hakim Zouani. Merci. À la semaine prochaine, jeudi prochain.
Ça marche.
On prendra le temps. Merci. Allez voir le film. Franchement, allez le voir, La Cour des Miracles. Il faut aller le voir parce qu'il faut soutenir aussi, vous savez, des œuvres qui sont évidemment incarnées par des personnalités issues des quartiers populaires. Moi, je trouve ça beau, noble. Et il faut les soutenir. Donc, chers amis auditeurs, La Cour des Miracles à ne pas manquer, notamment, comme le disait Karine May. Et plus, ce week-end, je ne savais pas. Eh bien, allez vous jeter au cinéma. Voilà, c'est le seul moyen d'aller se réfugier pour aller savourer ce film, La Cour des Miracles. Et la semaine prochaine, on prendra le temps de les recevoir ici et parler justement de tous les enjeux que concerne l'éducation nationale, puisque c'est une question sociétale. 0153 48 3000. Je vais ouvrir l'antenne. Vous êtes nombreux. Tout de suite, là, maintenant, j'aimerais vous entendre à la fois sur deux sujets. Alors, Hassan Iqoussane a été arrêté, vous le savez. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous, comment vous le vivez? Deuxième sujet, Poutine qui durcit le ton. Ça y est, c'est la fête. La plage rouge est noire de monde, comme on peut le voir dans certaines images, où on vient fêter la signature, puisque Poutine a acté les annexions, justement. Si vous avez un avis, venez le partager. Est-ce que ça veut dire clairement que là, il met l'Occident devant le mur, ou est-ce que c'est une déclaration de guerre indirecte pour leur dire, eh bien, si vous touchez à ces annexions, sachez que là, c'est le nucléaire. c'est aussi traduit comme ça. 01 53 48 3000. Je vous attends, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h23, chers amis auditeurs, je vous attends au standard 01 53 48 3000. C'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on accueille Bilal qui nous appelle de Vitry-sur-Seine. Bonjour Bilal, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bilal? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Bonjour, moi j'avais déjà appelé, je crois, et je suis manager.
Bienvenue. Mais il n'y a aucun problème. On vous écoute, Bilal.
Donc j'ai appelé parce que je voulais absolument intervenir dans l'émission aujourd'hui, parce que je crois que les gens ne se rendent pas bien compte, mais c'est une ligne d'histoire qui vient d'être écrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Poutine a officialisé l'entrée de ces quatre régions.
Ils ne se rendent pas compte, les gens. C'est bien d'en parler. Je suis content que vous en parliez. Je voulais absolument qu'on en parle.
Voilà, c'est vraiment un événement historique. Alors qu'on soit pour ou contre, ça, le débat, il est pas là. Il est que c'est un événement historique. Ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point qui me paraît primordial, il y a beaucoup d'avis à la télé, que ce soit sur les plateaux ou sur les réseaux. Et moi, je voulais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que il faut faire très attention dans un cas comme ça. Lorsque on est très va-t-en-guerre, il faut assumer. C'est-à-dire que si vraiment c'est le conflit et la guerre qu'on recherche, ne serait-ce que dans l'opinion publique, le jour où elle viendra, il faudra l'assumer. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont mourir, et il y a aussi la guerre économique qui a déjà commencé, avec plus de gaz, avec on ne peut plus se chauffer, l'inflation et tout. Donc ça, c'est le deuxième point que les gens, il faut qu'ils sachent, qu'ils assument avant, pas après. Après, ce sera trop tard. Le troisième point très important, c'est que là, on en parle, on dirait que Poutine, on vient de le découvrir. Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, même à un moment, même si à un moment, il a changé, c'est mes premiers ministres, et il est redevenu.
Oui.
Voilà, il le savait très bien, ça fait 20 ans qu'on le connaît. Et ce qu'il a fait avec l'Ukraine, il l'a fait avec la Tchétchénie, il a fait même pire, et tout le monde a laissé faire. Et comme on dit en politique, comme dans la vie, l'appétit vient en mangeant. Il ne faut pas laisser quelqu'un écraser des peuples et tuer des gens pendant 10, 15 ans et un beau jour dire « Eh non, là c'est pas possible ».
Alors c'est quoi pour vous Poutine, il a gagné? Pour vous Poutine, parce qu'il était affaibli, il essaye de retrouver la géopolitique avec ses alliés,
non,
c'est quoi?
Non, en réalité, pour moi, c'est à ce niveau-là, il n'y a même plus gagner, perdre. Vous savez, il y a une citation qui dit un homme politique pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine génération. Là, on n'est pas dans des élections, c'est des gens qui pensent vraiment très loin. D'ailleurs, son discours, moi, je l'ai écouté entièrement, et dans son discours, il a parlé, il est revenu des siècles, voire des millénaires en arrière. Donc, c'est quelque chose d'au-delà de « Ah, il a gagné, il a perdu ». Ce qu'il est en train de faire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine, effectivement, c'est un pays, on en a parlé, je crois, hier, vous en avez très bien parlé dans l'émission, et il a une culture, il y a la culture ukrainienne et la culture russe. Il faut savoir que les Ukrainiens, pendant des siècles, ils ont combattu aux côtés des Russes et ils se considéraient comme Ukrainiens russes. Et donc, aujourd'hui, c'est pas une question d'Ukrainiens, l'Ukraine libre ou l'Ukraine annexée. Pas du tout. En réalité, il y a l'Ukraine russe ou l'Ukraine européenne. C'est ça la question. Tous se battent pour l'Ukraine. Tous, ils aiment le drapeau ukrainien. Sauf que, quand on est un petit pays aujourd'hui, il faut un peu appartenir à un groupe. C'est, en réalité, quand vous écoutez son discours, vous voyez, vous savez, en science, Lavoisier disait « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Mais en réalité, ça va bien au-delà de la science. Et même en politique, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un discours de guerre froide. La guerre froide n'est pas vraiment terminée. Comme quand on voit aussi les pays africains avec l'Occident, la colonisation n'est pas terminée. Ça a changé de nom, ça a changé de terrain, mais c'est toujours présent. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que il y a l'ancien bloc Est, l'ancien bloc Ouest, qui continue à se battre pour leurs intérêts. Et quand Poutine, il a toujours dit, ouais, l'Ukraine, historiquement, elle est pro-russe. Et s'il voulait la faire rentrer dans l'OTAN, voulait la prendre, ok, moi je vais prendre mon petit bout. C'est ce qu'il a fait avec les quatre régions du Donbass et avec la Crimée, qui sont ratés les bouts les plus riches en infrastructures et surtout en ressources pétrolières et gazières. C'est pour ça qu'il a dit, ok, moi je prends ce petit bout, et l'autre bout, on va voir. Donc il y a une division ukrainienne, mais c'est une division surtout de richesse et de puissance de géopolitique. C'est pas le territoire en soi, puisqu'aujourd'hui, il a été scindé en deux. Donc c'est un peu ça que je voulais expliquer. Et surtout,
je vois que vous avez pris le temps d'étudier effectivement à la fois son discours, mais également aussi la géopolitique, mon cher Bilal.
Bien sûr, bien sûr.
Vous êtes un passionné.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'interviens dans votre émission, parce que vous avez, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites et qu'on peut pas toujours dire, et c'est pour ça que j'aime bien écouter et que je vous appelle. Et une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que il faut bien garder en tête également qu'en France, c'est quand même un pays de penseurs. Il faut toujours prendre du recul et se séparer un peu, prendre du recul sur la pensée unique. Le fait de croire que tout est manichéen, tout est noir ou blanc, il y a les bons et les mauvais, dès qu'on pense ça, on fait erreur. On a bien vu ça avec l'Irak pendant 20 ans.
Vous dites que tout est manichéen. On parlait de manichéisme tout à l'heure, justement.
Exactement.
Dans le cadre de l'interview avec la Cour des Miracles. Il faut aller voir. Hein.
Oui, j'ai écouté, c'est très intéressant. Je pense que je vais aller le
voir. Le manichéisme, au départ, c'est une religion. Il ne faut pas l'oublier. Perse.
Bien sûr, le reliquat aujourd'hui, c'est une vision binaire du monde.
Attention, le mécanisme aujourd'hui, avec la seconde définition, c'est le bien, le mal, évidemment, fondé sur des éléments.
Oui, exactement, ça a évolué. Ouais. Ça a évolué, ça a une origine étymologique, mais aujourd'hui, ça a évolué.
Mais merci, mon cher Bilal.
Juste une petite chose, et je vous rends l'antenne, juste une toute petite chose, je voudrais juste que les gens se rappellent bien que pour l'Irak, pendant 10 ans, on nous a dit des discours, et à l'issue de la guerre, quand tout le monde est mort, quand un pays de la Babylone, c'est 5000 ans d'histoire quand même, c'est le berceau de l'humanité, il a été bombardé pendant une dizaine d'années, pour qu'au final on nous dise, ah non, finalement il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Donc, avec ça, il faut vraiment prendre du recul sur la géopolitique, ce qu'on nous dit, et la réalité du terrain.
Merci. Voilà. On peut l'applaudir. Bravo Bilal.
Merci.
Bravo Bilal. Bilal, vous avez été très bon.
Merci beaucoup.
Bravo pour évidemment votre point de vue, la pertinence de ce que vous nous amenez. Au plaisir Bilal, prenez soin de vous, bon week-end.
Merci.
0153483000, ça continue, mais tout de suite le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec, comme chaque vendredi, vous le savez, ici même, que ça se passe en direct avec Michel Taube. Michel Taube qui est un éditorialiste télé dans les médias qu'on voit partout, mais également, surtout, il est patron, fondateur de l'Opinion Internationale. Michel Taube, bonsoir.
Bonsoir, et surtout, grâce à vous, j'ai une carte blanche sur Beurre FM et je salue tous les auditeurs de Beurre FM.
Carte blanche, vous pouvez le dire à nos auditeurs, à aucun moment, je vous oriente, Michel Taube.
Ah non, et j'apprécie...
Vous pouvez confirmer la liberté et le ton politique que vous adoptez.
Absolument, et c'est une... C'est aussi ça la France, c'est la liberté d'expression, et c'est d'avoir des médias comme Beurre FM et des éditorialistes comme moi et des journalistes comme vous.
Exactement. Allez, Michel Taube, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur. C'est maintenant, c'est tout de suite, à la fois sur Hassan Iqoussen qui a été arrêté il y a peu de temps, mais également aussi direction l'Iran. On vous écoute.
Alors écoutez, l'information est tombée il y a une heure environ. La police belge a arrêté l'imam Hassan Iqoussen près de Mons, donc tout près en fait de la frontière française. C'est le ministre de la Justice, Vincent Van Kickenborn, mise à justice belge qui l'a annoncé. Et bon, comme je l'ai écrit dans déjà pas mal d'éditos, moi j'étais en faveur de l'expulsion de l'imam Iqoussen parce que je considère que ni au Maroc, qui est son pays d'origine, ni ailleurs dans le monde, une personne n'a le droit de dire que l'homosexualité est un péché, n'a le droit grosso modo d'interdire à une femme de serrer la main d'un homme sans remplir 250 conditions théologiques qui sont totalement absurdes, n'a le droit de considérer qu'une personne qui décide librement de changer de religion n'est digne d'avoir 12 coups de balle dans la tête, comme l'imam Iqoussen l'avait prôné pour des personnes qui souhaiteraient quitter la religion musulmane. Voilà, donc je pense que son arrestation est un mois de cavale après l'ordre d'expulsion décidé par le Gérald Darmanin. Mais en même temps, cette arrestation me laisse amère. Elle me laisse amère pour deux raisons. La première, c'est que les raisons pour lesquelles il a été initialement sujet à un ordre d'expulsion, à savoir ses prêches xénophobes, racistes, antisémites, sexistes, homophobes, sont toujours sur Internet, sont toujours sur YouTube. Et je trouve totalement aberrant que d'un côté, on décide de l'arrêter, de l'expulser, et que de l'autre, les motifs même de son arrestation sont toujours en libre service et disponibles pour tout le monde. C'est une anomalie complète, et je pense qu'il est temps, il est urgent que sur YouTube, sur Google, sur Facebook et sur les réseaux sociaux, ces prêches, si tant est qu'ils considèrent, et ils le sont, contraires à la loi et contraires à la morale, eh ben, ils doivent être interdits de diffusion. Et la deuxième chose, elle nous vient de Téhéran.
Alors, avant de parler de l'Iran, justement, pardonnez-moi, mais évidemment, cela me pousse à vous poser la question. Vous savez que on l'a beaucoup traité sur notre antenne, Hassan Iqoussen, et notamment sa fuite en Belgique. J'ai une question. 10 ans après, effectivement, en 2014, me semble-t-il d'ailleurs les premiers faits, entre-temps, il a fait un mea culpa. Il a fait une vidéo où il s'est excusé, évidemment.
Permettez-moi, si vous voulez, quand quelqu'un commet un délit très grave, il peut s'excuser, c'est très bien. Mais quand vous êtes enseignant, quand vous êtes un prêcheur, quand vous êtes un imam, quand vous êtes un homme de conscience qui diffuse, pas une fois, mais des dizaines de fois, une conviction personnelle qui est fondée sur vos propres valeurs, vous pouvez pas vous contenter d'excuses. Il a eu des propos encore récemment. Je suis désolé. Ce monsieur est porteur d'une doctrine.
Je laisse le soin aux auditeurs de répondre. Vous avez installé le débat. Et tant mieux. C'est le lieu. 01 53 48 3000.
Voilà. Et je tiens à dire la deuxième raison pour laquelle je suis amer, c'est que elle nous vient d'Iran. En Iran, qui est le berceau de la révolution islamique iranienne de 1978. Vous avez aujourd'hui des milliers de femmes qui enlèvent le voile, symbole de la charia, et qui d'elles-mêmes donnent une leçon de liberté et une leçon d'un islam des Lumières, d'un islam modéré, d'un islam ouvert, d'un islam respectueux des libertés individuelles, comme c'est le cas, heureusement, pour énormément et de très nombreux musulmans. Et donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui, effectivement, un conflit de valeurs, il y a un conflit entre deux conceptions de l'islam. Pour moi, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Il y a une conception rigoriste, qui est un mélange de salafisme et de frères musulmans, et vous avez une conception, on va dire, sécularisée, on peut dire laïque, moderne, respectueuse des convictions de chacun, qui n'impose aucune violence à personne et qui est celle que les femmes iraniennes aujourd'hui incarnent. Donc quand je vois aujourd'hui, effectivement, un imam Iqoussen soutenu défendre des propos aussi durs, aussi rétrogrades et recueillir des soutiens nombreux, malheureusement, en France, et que je vois des femmes iraniennes, musulmanes, nous donner une leçon de liberté et de respect, et ben je dis chapeau mesdames, et je dis, ben écoutez, l'imam Iqoussen, il est arrêté, c'est bien fait pour lui, il l'a malheureusement mérité. Je vais vous dire, il n'est pas encore expulsé au Maroc, parce qu'il va y avoir des recours, l'affaire est malheureusement loin d'être terminée, et il faudra qu'on en tire les leçons dans le droit français, mais voilà, je voulais rapprocher ces deux faits d'actualité, iraniennes qui enlèvent le voile, et l'imam Iqoussen qui est arrêté.
Et ben vous savez quoi, ça suscite déjà eh bien un débat, notamment notre avocat qui est sur le plateau, maître David Libeskind, qui vous dit et qui a envie de vous répondre. Mais il n'est pas expulsé. Allez-y, maître. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais, ça le ronge. Depuis tout à l'heure, il dit laissez-moi parler. Alors, vous me permettrez, Michel Taube. Maître Libeskind, qu'est-ce que vous voulez dire?
On en avait déjà débattu sur ce plateau. Il s'est expulsé lui-même. Donc, je ne vois pas les motifs de l'arrestation. On lui a interdit, en fait, il a interdit de séjour en France. Donc, il est parti. Donc je vois pas pourquoi on a fait une chasse à l'homme à l'encontre de cet imam, alors qu'il s'était et qui auto-expulsé lui-même, il a appliqué en fait l'arrêté de reconduite à la frontière. Mais attendez, c'est cet homme n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale.
Voilà, donc il ne peut pas être poursuivi internationalement.
Il n'était pas poursuivi pénalement, il n'avait commis aucune infraction.
Maître David Libeskind, vous laissez Michel Taube juste échanger avec vous, et on doit marquer une pause. Michel.
Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Et non, donc c'est
mandat d'arrêt européen, sur quel motif ?
Sur le motif d'assaisie de la justice française, je vous rappelle, qui est en Conseil d'État confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme.
Je vais lancer la pause. Merci, mon cher Michel Taube. À la semaine prochaine, sans faute.
Absolument. Merci à vous.
Ça y est. Merci, vous avez lancé le débat, vous l'aurez compris. 01 53 48 3000, venez en parler. Justement, ici, le stand est ouvert. Michel Taube a ouvert le débat, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h43, si vous venez de le retrouver, c'est parti pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Avec Akili Melouli, bonjour, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne.
Bien sûr.
Comment ça va,
Adil? En pleine forme.
Vous aviez un message notamment de la part de votre maire qui voulait absolument apporter son soutien. Le maire de Stain.
Alors oui, c'est enfin hier au conseil municipal avec Denis Ostoron, donc qui est le maire de Bonneuil et la municipalité, donc nous-mêmes tous les élus, à la majorité d'ailleurs absolue, même l'opposition. On a fait un vœu de soutien à Azdine Taïbi et aux élus de Stain en général pour effectivement ces attaques qui sont dans notre temps, qui sont honteuses, qui les renvoient à l'origine, ces falsifications, ces prises de position. On peut avoir un débat dans une démocratie. On peut débattre, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. La question ne se pose pas. Par contre, on ne peut pas continuer ces manigances de renvoyer la suspicion, qu'on jette l'opprobre parce que les gens n'ont pas les mêmes valeurs que nous ou défendraient d'autres choses. Par contre, ils ont les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et je rappelle à tous ces gens qui en parlent, c'est que la liberté d'expression, tout à l'heure les gens disaient oui, il y a une liberté d'expression, mais pas pour tout le monde. Ça existe pas. Soit c'est liberté d'expression, soit c'est pas. Qu'est-ce qui arrête la liberté d'expression ? C'est quand effectivement les gens tiennent des propos qui sont poursuivis, condamnables par la loi. C'est la loi, dans une démocratie, c'est le droit qui régule. C'est pas les indignations sélectives.
Ça vous met en colère.
Voilà, ça me met en colère. Et qui sont ces gens qui voudraient décerner des certificats de francité ? Qui les a labellisés ? Il y a une constitution qui dit clairement c'est quoi être français. Ce sont des élus de la République. Et en plus, on a falsifié les listes pour montrer. Et donc, cette théorie du grand remplacement, etc., il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, il faudrait dire à ces gens-là que l'humanité, elle a débuté en Afrique. Donc, il y a longtemps que tout le monde a été remplacé.
Allez, un tour de table. Je vais accueillir nos débatteurs influenceurs. Maître David Libeskind, bonjour.
Bonsoir.
Oh, toujours en forme.
Moi, ça va, en forme.
Super. Même chaise, même lieu, vous. Hein, vous ne changez
jamais.
Ah, moi,
j'adore cette chaise. Je sais pas, j'aime bien ce coin.
Oui, vous avez votre. J'ai remarqué ça, moi. Quand il arrive à la radio, il a ses petites, vous savez, ses petites habitudes. Il vient, son petit café, chers amis auditeurs.
Oh, le petit café, on me l'offre. Hein.
Ah, mais il faut son petit café. Vous savez, on le bichonne. Il a le même siège.
J'ai vu qu'il avait des trucs de mamie. Hein. T'as remarqué, il est venu, mon siège, ma place, tout ça, David. Donc, j'ai vu ça quand même.
Il a ses habitudes.
Non, j'exagère.
Vous parlez-vous, Akli Melouli ? Vous êtes toujours là quand vous venez. C'est toujours votre place.
Non, d'habitude, je vais des fois là-bas. Ça dépend.
Non. Là, depuis que vous êtes là, vous avez. Depuis
David,
la reprise.
David a tout le monde, je le dis quand même. Hein.
Ah non, c'est exagéré tout de même.
Un autre élu qui est avec nous, c'est celui de Rueil-Malmaison, qui sort d'un énorme jubilé, Napoléon et Joséphine. Ça se passait un jubilé impérial.
Merci beaucoup.
Alors, comment ça s'est passé, mon cher Rafik Temgari, notre élu de Rueil-Malmaison?
Franchement, j'ai essayé de ramener un peu de légèreté. Donc, c'était un superbe week-end impérial.
Il a ramené des bonbons à la menthe.
On a eu peut-être plus de 160 000 visiteurs pendant ce week-end. Oui, voilà.
160 000.
L'occasion de saluer la princesse Yasmine Murat. La princesse Yasmine Murat qui a des origines algériennes, donc et qui est effectivement la femme du prince Jacques Murat.
Ils viennent d'où tous ces 160
000 Alors, il y a eu beaucoup de visiteurs de l'Île-de-France, mais il y a eu énormément de toute la France. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de passionnés de Napoléon et de l'histoire de France qui viennent aussi de l'Europe de l'Est. Donc on a eu beaucoup de Polonais.
Avec des déguisements et tout, etc.
En dit costumé.
Costumé.
Tout le monde a été costumé, y compris moi. Ouais. Mais c'était vraiment superbe. On invite d'ailleurs, on le refait tous les 2-3 ans. Et franchement, je vous invite à voir sur les photos sur Internet, c'est juste magnifique.
Ouais, Napoléon,
sur Internet,
c'était...
quoi, sur le site de Waterloo.
Espérons que ce soit pas Waterloo à Rueil.
Il y a d'autres batailles qui a gagné quand même, à Clé.
Qui ça, Napoléon ?
Bien sûr.
Le Vladimir Poutine de l'époque, Napoléon.
Ah, il a fait beaucoup de choses.
Il a fait beaucoup de massacres.
Aujourd'hui, on est en le code civil, peut citer les arrondissements, c'est énormément.
C'était un impérialiste, Napoléon.
Communiquant sur les bonnes choses qu'il a fait, Napoléon. Et ça, c'est important.
Alors, c'est pas parce qu'il est français qu'il faut pas avoir un esprit
critique sur l'œuvre napoléonienne.
Tout à fait.
Mais c'était un impérialiste. Vous avez raison.
Oui, c'est un impérialiste. Toujours de choses.
Grand personnage,
par Napoléon.
Un grand personnage, oui, c'était un militaire, mais bon. C'est vrai qu'il a peut-être fait beaucoup de choses en France. On a cité le code civil et bien d'autres choses.
Les honneurs, les arrondissements.
Voilà, mais ça restait quand même. C'est une époque, mais ça restait quand même un dictateur.
La Légion d'honneur, c'est lui, hein.
Oui, c'est lui. Non, mais la Légion d'honneur, c'était pour récompenser ses sympathisants.
Voilà.
Parce qu'à l'époque.
Et leur donner des garanties.
À l'époque, avec Napoléon, en fait.
C'est une discrimination, la Légion d'honneur.
Voilà, on vivait en dictature, entre guillemets.
Il faut dire qu'aujourd'hui,
les opposants, ils étaient
très heureux.
Allez,
c'était massacré.
Voilà. Napoléon n'est pas le sujet. On va démarrer tout de suite avec la réforme des retraites. Ça vous intéresse ?
Bien sûr.
Bon, ben Napoléon justement. Alors la réforme des retraites, dissolution, c'est ce que propose. C'est pas ce que propose. Emmanuel Macron n'exclut pas. Effectivement, il l'a en tête. C'est-à-dire que il a quelque part comme ça l'idée de se dire si la concertation ne prend pas forme, si le débat ne prend pas forme, si évidemment il y a des mentions de censure, eh bien je me servirai du 49.3. Autre scénario possible, c'est de saisir cette possibilité de dissoudre l'Assemblée. Alors, tour de table. Tiens, Maître David Libeski, ensuite je fais un tour de table. Parce qu'il faut qu'on en parle.
Alors, c'est tout simplement...
Le sujet qui fâche et qui divise.
Enfin, qui divise, je ne sais pas, en fait.
Les opposés aux gens, ils sont là.
Non. Pour l'instant... En fait, c'est habile, évidemment, pour Emmanuel Macron, parce qu'on reste quand même encore en début de mandat. Donc, si l'Assemblée nationale fait l'objet d'une dissolution, il n'est pas certain que la France insoumise fasse autant de voix, avec les scandales Adrien Quaternes, la gifle, etc. Il n'est pas certain que LR retrouve son quota de député. Par contre, ce qu'il est certain, c'est qu'à mon sens, le RN va augmenter, en fait... Son quota de députés. Donc c'est un petit peu habile, mais est-ce que en fait la droite, parce qu'en fin de compte Macron il est soutenu surtout par la droite, il y a Renaissance et la droite et Horizon, est-ce que la droite prendra le risque, donc LR prendra le risque en fait de voter une motion de censure, parce qu'on sait que l'ANUPS voterait cette motion de censure,
plus ou moins comme
le RN, on sait plus ou moins que ça peut se discuter qui votera cette motion de censure, mais la droite. Voilà. Donc c'est un peu habile, mais bon, c'est du chantage. Et puis, on a vu qu'hier, il n'y avait pas une énorme mobilisation. Faut se le dire, hein. Il y avait quoi, 10 000
hier 225, ouais. On parle. 225 000,
selon les organisateurs.
Sur toute la France,
oui.
Ouais. D'accord. Mais bon, selon les médias, il y a 10 000. Hein.
Selon les policiers.
Ouais, c'est BFM, hein, excusez-moi. C'est peut-être la source qu'il faut pas. Enfin,
ce sont des sources. Voilà. Faisons un tour de table, justement. Akli Mellouli. Alors, cette histoire de réforme des retraites, compliquée quand même, hein.
Alors, c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas besoin d'une réforme pour les retraites et qu'on réforme les retraites pour payer d'autres choses, ce qui est grave. Et puis, pour ces gens qui disent défendre le travail, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, vous savez que les retraites, c'est quand même le fruit du travail. C'est le fruit du travail. Donc, les gens ne peuvent plus se reposer. Et se pose l'autre question. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, au-delà des menaces qui pèsent et tout, aujourd'hui, la question qui est posée sur la table, en fait, parce qu'elle va plus loin que les retraites, c'est globalement, c'est le système de solidarité français. Parce que on peut pas comparer le système de solidarité à la française à l'Europe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus payer pour les autres. C'est là aussi où ça remet en cause tout un système. Donc, au-delà de ce qu'il peut dire et de ce qu'il peut agiter, bien sûr qu'il essaie d'agiter la peur de la dissolution pour certains et pour d'autres. Mais en même temps, aujourd'hui, on est dans des blocs. Et si on n'a pas, là, on n'a pas le temps de développer, mais si on avait le temps, on aurait pu développer sur les différents blocs. Et comment ça se joue? David l'a soulevé déjà en parlant du RN, qui est un bloc, en fait, qui est aussi un bloc néolibéral, sauf que lui, il veut renverser la table comme la NUP, mais pour de mauvaises raisons, parce qu'en disant il faut prendre des étrangers pour donner aux Français. Et ça s'entend. Dans la période de crise, les gens ont peur et ça s'entend. La NUP dit il faut renverser la table parce que le système n'est plus viable. Et donc ce système de retraite, la façon dont on fait, n'est plus viable non plus. Et donc aujourd'hui, le vrai débat, en fait...
Vous avez oublié LR.
Les LR, ils sont néolibéraux, donc eux, ils sont bloqués. Ce que dit David, c'est aussi par rapport à ça. Eux, ils sont bloqués dans cet espace-là. La question qui va être posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la crise, les difficultés qu'on rencontre, on va bien sur l'énergie, sur plein de choses. Est-ce que les gens vont, s'il osait dissoudre, je pense qu'il ne va pas dissoudre maintenant parce qu'il n'a pas les cartes en main. Par contre, après une bonne campagne, notamment où l'énergie ne manquera pas aux Français, etc., il peut être tenté pour essayer d'avoir une majorité. Mais là où il veut réformer la retraite, c'est qu'on est sur du dogmatisme et sur un travail de néolibéraux. Et c'est là où ça pose un vrai problème et c'est là où, effectivement, les syndicats ne peuvent même pas accompagner ce mouvement, même les syndicats réformistes, parce qu'en réalité, ce n'est pas une réforme, c'est juste un
les
truc dogmatique.
Ne peuvent pas accompagner ce mouvement. Pas tous les syndicats.
Non, c'est-à-dire...
Tous les syndicats.
Non, mais tous les syndicats sont contre, même la CFDT, hein, il me semble.
Oui, tous.
Oui, ils sont tous.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ils ne peuvent pas accompagner ce mouvement, Adil, parce qu'il n'a pas, il ne prend pas, après il dit on va faire la pénibilité. Il n'y a pas d'urgence à la 65 ans, il n'y a pas, et aujourd'hui en plus, bah, l'autre question.
Le système est excédentaire, David, le système.
Voilà, moi je l'avais déjà dit il y a longtemps chez vous, j'avais dit, alors que les gens disaient l'inverse, je disais, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a un vrai sujet, c'est qu'effectivement, si on commence à toucher à la retraite, demain on peut toucher aussi à la retraite par répartition, en mettant la retraite par point. Et donc ça veut dire qu'on veut ouvrir la retraite au fonds de pension, à la spéculation. Voilà. C'est là où, parce que quand on ouvre une boîte de Pandore, il faut savoir où on l'arrête. Et donc on tue le système à la française de solidarité. Parce que je veux bien qu'on joue des comparatifs, mais il faut pas oublier que le système de française de sécurité est basé sur chacun cotise en fonction de ses moyens et tout le monde utilise en fonction de ses besoins. C'est
18h53, nous allons donner la parole à Rafik Temgaré juste après la pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Akli Melouli, les informés, c'est avec Maître David Limeskid, et enfin les informés, c'est avec Rafik Temgaré.
Les informés, le face-à-face.
On continue la réforme des retraites, justement, et je donne la parole à Rafik Temgaré, l'élu de Royal Ma Maison. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors,
dissolution, Napoléon. Pas dissolution, la réforme, pas de réforme, discussion, bref, où en est-on?
Alors déjà, il faudrait mettre quelques éclaircissements. Cette réforme a été mise en place. Le président souhaite que cette présente soit mise en place pour 2023. Donc ouais, c'est pour demain.
Janvier, hein, 2023.
Ça c'est vraiment en termes de timing. Pour qui? Bah pour toutes les personnes qui sont nées, je pense, à partir du entre juillet et décembre 1961. Donc là déjà, on se situe un petit peu. On est en pour quelles qui sont les personnes qui vont être assujetties à cette réforme. Après, moi je pense que actuellement, les arguments du gouvernement, c'est de dire on va pas augmenter les impôts. Et c'est vrai. Je pense qu'il faudrait à certains moments, mais si c'est vrai,
c'est toujours l'argument des magots en fait.
C'est pas des magots.
Mais si.
Comment fait pour ne pas augmenter les impôts? Donc là, il faudrait vraiment augmenter les cotisations.
Mais si tu peux. Là,
comment ne
les impôts sur les entreprises.
Laissez-le finir, David, maître David.
Donc là, il faut, pour moi, c'est injuste vis-à-vis des retraités. On va pas baisser leur pension, donc il faudrait absolument être dans la continuité. Et je pense que c'est un allongement progressif de la durée de cotisation. Donc ça, c'est les arguments majeurs que le président et le gouvernement donnent. Après, maintenant, pour moi, mettre un petit peu en otage en disant oui, attention, on va mettre le 49.3. Je pense que c'est un aveu de faiblesse, parce que aujourd'hui, il y en a aucun gouvernement qui l'ont utilisé. Je pense que c'était Charles de Gaulle en 1962.
Mais si, il y a plein de gouvernements. Il y a Rocard qui l'a utilisé.
Rocard,
il avait une majorité relative.
De la part d'un président de la République,
je pense. Oui, il y en a beaucoup aussi. Si. Il n'y a pas que Michel Rocard.
Sincèrement, président de la République, je ne pense pas. Hein. Je pense que les chefs
aucun
de gouvernement.
Aucun président de la République, en revanche, pense, Michel Rocard, oui.
Non, mais. Non, mais alors.
Je ferai des recherches.
Non, non, je vous le dis, c'est vrai. Mais, aucun président.
Exactement.
Non, mais c'est normal.
Aujourd'hui, c'est un aveu de.
Mais Rocard, oui. Si, Rocard, si.
Constitutionnelle.
Si, Rocard, si.
Est-ce que tu vas être content?
Mais le président,
pour moi, c'est le
Premier
ministre qui va être content si il passe cette réforme-là. S'il passe le 49.3, comme il l'a dit David, et là je le rejoins.
Alors,
je pense que le Rassemblement National peut gagner. Les LR, c'est un peu OK en vote. Enfin, on fait pas de mention de censure, mais je pense que quand même, comme il l'a dit Akli, ils sont des néo-libéraux. Mais après, je pense que les grands perdants, ça va être les LFI, parce que aujourd'hui, ils sont vraiment dans une position qui est un petit peu sensible avec tous les scandales qu'ils ont eu.
Alors, petite précision terminologique juridique.
Oui.
Le président n'utilise jamais le 49.3, c'est le Premier ministre. Voilà, c'est le Premier ministre.
C'est l'exécutif.
Alors, il y en a beaucoup, hein, qui l'ont utilisé. Il y a Michel Rocard, il y en a bien d'autres. Parce que Michel Rocard, à l'époque, avait une majorité relative. Il gouvernait avec 2, 3 ou 4, 5 députés centristes. Ouais. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, quand tu dis, voilà, ça va empêcher d'augmenter l'impôt sur revenu. Mais ça, c'est un argument, en fait, qu'utilisent tous les gouvernements, Macron, de droite, etc. Mais dans ce cas-là, on fait une taxation sur les super-profits.
Yes.
Oui. Hein,
je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau.
Mais dans ce cas-là, toutes les grandes sociétés iront ailleurs. On n'aura plus de sociétés.
Et voilà, c'est encore
oui,
l'argument.
Mais
c'est
pas un argument, c'est la réalité du terrain.
Ouais. Non,
aujourd'hui,
non.
Les multinationales ne souhaitent plus rester en France et peuvent partir en Belgique, peuvent partir en
Belgique. Ça fait longtemps qu'elles ne sont plus imposées en France.
Ça fait longtemps qu'elles ne sont plus imposées.
Ouais, voilà,
ça fait longtemps qu'elles ne sont plus là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système. D'accord, Affine. Mais le système de solidarité aujourd'hui repose sur les PME, PMI, qui, elles, ont cette injustice de payer leurs impôts. Et donc, là, on devrait effectivement mieux réfléchir. Et en plus, quand on fait des aides, en fait, elles, quand même quand on veut aider les PME, PMI, on est rattrapé par le Trésor et par d'autres règles économiques qui font que ça profite à tout le monde et donc surtout au, encore aux multinationales. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête ce système. Il faut qu'on retravaille les choses parce qu'on peut pas continuer sinon on ira dans le mur. Et c'est faux prétexte. Alors, ceux qui veulent partir, ils sont déjà partis. Donc, à mon avis, parce que les gens veulent, ne veulent pas payer leurs impôts en France. Par contre, ils veulent bien le système de solidarité, c'est-à-dire un système de santé qui fonctionne, des routes, des trains, des transports, des trucs. Voilà. Et donc, il faut arrêter. Il faut bien être cohérent.
Rafik Temgari, ensuite Maître Olivier Mesquine.
Je pense qu'à ce niveau-là, quand on parle de multinationales, sincèrement, qu'est-ce qu'ils créent comme emploi, qu'est-ce qu'ils font pour l'économie actuelle? Oh, bah si.
Si,
bah, demain, on va tous les mettre dehors et on va voir comment ça va.
Les multinationales font de la spéculation.
Le super profit, certes.
Ils ne créent pas d'embauche.
Non, non.
Quand le ministre de l'économie dit que Bruno Le Maire, justement, que cette réforme est une garantie de prospérité et de plein emploi pour, en France.
Ah oui, bah, il a tout à fait raison. Moi,
il a
je
raison.
Trouve qu'il a tout à fait
la,
raison.
La réforme des retraites, je vois pas le rapport avec le plein emploi. Hein.
Non, mais il rien à voir.
Aujourd'hui, non, c'est, les personnes sont bien épanouies.
À partir de 55 ans, les gens ne sont plus. Les gens, à partir de 55 ans, sont au chômage. Ils sont en
retraite. Ils utilisent le système. Plus.
Donc, il y a un problème d'employabilité des seniors. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème, on peut allonger. Il y aura des gens qui, au lieu de rester 4 ou 5 ans en pré-retraite avec des aides superficielles, eh bien, ils vont y rester 10 ans. Et en fait, on l'a dit, cette retraite, ils veulent cet argent pour répondre aux critères de Maastricht des 3%. C'est ça leur engagement. En fait, ils veulent payer avec ça les engagements qu'ils ont pris. C'est compliqué.
En fait, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, ils veulent américaniser le système.
C'est ça, oui.
Que ce soit plus un régime universel. C'est-à-dire, on aura le minimum vital. Et en fin de compte, après, on complétera notre retraite par l'épargne, enfin, par l'argent qu'on aura placé dans des épargnes collectives, des fonds de pension, etc. Voilà. Et en fait, on se dirige vers ça, mais comme la sécurité sociale pour l'histoire des mutuelles. Oui. On est moins remboursé, en fait, pour les prestations, les médicaments, etc. En revanche, c'est la mutuelle qui prend le complément. Et voilà,
alors,
c'est assez...
alors qu'à l'origine, bon, les mutuelles, même si c'est pas des fonds de pension, quand même, il y a aussi le côté mutualiste, mais même ça, c'est normal parce qu'à l'origine, la Sécu, c'était effectivement, on cotisait l'esprit de la solidarité, on cotisait en fonction de ses moyens, et on utilisait en fonction de ses besoins. Mais tout le monde était remboursé. Parce qu'aujourd'hui, même pour les mutuelles, il a raison de le préciser, David, c'est que ceux qui ont l'argent, on est encore pareil dans l'énergie, ceux qui ont de l'argent ne veulent plus payer pour les autres parce qu'eux, ils se disent, moi, j'ai l'argent, je paierai. Mais ils se disent pas qu'eux aussi peuvent avoir un accident de parcours. Donc quand on pense comme ça, on se détruit soi-même. Donc à un moment donné, il faut faire attention qu'on détruit pas un système qui aujourd'hui permet aux gens de ne pas chuter. Et on le voit même avec ce système, le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est hallucinant dans une grande démocratie.
Rafik Temgari.
Moi, je pense que, au contraire, il faudrait faire durer ce système-là en faisant des réformes. Aujourd'hui, chaque gouvernement qui vient en place, il promet des réformes et aucune réforme n'a été faite. Donc je souhaite que ce gouvernement aille jusqu'au bout, parce que c'est grâce à ces réformes-là qu'on peut investir sur le futur. On sait très très bien que la population française est de plus en plus vieillissante. C'est un fait. Donc aujourd'hui, on va ramener d'où?
Non mais la
donc,
question,
il est
non mais
impératif pour attendez. Nous.
Non mais la question c'est toujours pareil en fait. Maître, oui, tu veux pas réformer, mais il y a les bonnes et les mauvaises réformes.
Voilà.
Sauf que là en fait, c'est une mauvaise réforme. Il y a je pense que alors il y a moyen en fait de réformer
le système. Il n'y aura jamais une réforme sur mesure que tout le monde va
adorer. Non, c'est pas des réformes sur mesure, c'est il y a des mauvaises réformes.
Une réforme qu'il faudrait
on peut réformer la retraite,
tenir et aller jusqu'au bout.
On peut réformer la retraite
la majorité
sans
des Français,
faire appel en fait à des systèmes complémentaires d'épargne, etc.
Sans pour et on l'a bien vu hier.
Non, la majorité des gens, je sais pas, il y avait 200 000 personnes on m'a dit.
Bon, en tout cas, messieurs, si censure à l'Assemblée, donc la dissolution. Pour vous, les grands gagnants, ça risque d'être le RN.
Pour moi, le RN. En fait, le problème de l'ANUPS, en fait, l'ANUPS est tellement émaillé par des scandales. Il y a des violences, soit une gifle, ou soit, enfin, etc. Pour moi, ça va être un peu compliqué. En plus, Jean-Luc Mélenchon a soutenu Adrien Quartens, même s'il est un peu revenu. Dessus. Donc, je pense que le grand gagnant, bon, c'est pas la droite, puisque la droite, de toute façon, excuse-moi, mais. La droite, c'est terminé depuis longtemps. Donc, je pense que malheureusement, on a vu le résultat des dernières élections législatives. Il y a eu une poussée extraordinaire
personne s'y attendait du RN. Et je pense que même si le RN ne se positionne pas forcément comme un opposant systématique, parce qu'on a que vraiment l'ANU, puisqu'il y a un opposant systématique au sein de l'Assemblée nationale.
C'est très affaibli actuellement.
Mais comme l'ANU s'est affaibli, j'ai bien peur que c'est le RN. Et Emmanuel Macron, il faut pas qu'il pense que s'il dissout l'Assemblée nationale, que les Français vont lui donner une majorité absolue.
C'est pas du Mélenchon. Il est toujours dans cette optique. Ouais, mais je vais repartir, je vais être Premier ministre grâce au 43. Donc c'est là où il faudrait que ça. Ouais. Il faut arrêter.
Messieurs, nous avançons, s'il vous plaît, et je voudrais qu'on entame, vous savez, ces sujets de violence, d'affrontement. On parle d'Alençon, on parle de Rennes maintenant, de évidemment. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de commenter évidemment ce qui se déroule. C'est pas autant de commenter ce sujet. Ce qui m'intéresse, c'est finalement. Est-ce qu'on a une explication sur ce regain de violence? Est-ce qu'on a une explication sur, évidemment, ces quartiers populaires qui sont parfois, évidemment, en marge de notre société? Faisons un tour de tabaclie, Mélouli.
Alors, moi, je ne sais pas si...
Et on parle de zones de non-droit, voilà, parfois.
Mais zones de non-droit, alors, le problème, c'est toujours pareil. C'est... Comment c'est, on en parle... Non, mais attends, Adil. C'est-à-dire que là, on parle de Nantes et de Rennes. Mais il y a autant de violence à Nice, partout. Donc à un moment donné, il y a effectivement des fois comme ça, on érige des endroits, peut-être parce qu'on veut casser de l'idylle. Avec la NUPES, tout le monde veut casser la NUPES. Et ça, c'est important parce que tout le monde a compris que si la NUPES arrive à tenir et qu'elle arrive à construire les conditions, c'est elle qui est en piste pour devenir ça. Parce que ce sera soit la NUPES, et comme tu l'as dit, soit le RN. Donc il faut que les gens comprennent ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre 50 000 alternatives. Aujourd'hui, on a essayé tout le monde et on le voit bien qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut, et tu as raison de préciser, David, les bonnes et les mauvaises réformes. Mais là, aujourd'hui, il y a une espèce d'attaque sur des gens. On voit bien qu'aujourd'hui, on fait monter en tête de blingue. Et après, on dit, il y a plus de volonté, on met des clichés sur des
oui, mais
des
les faits. Zones de non-droit. Non,
mais Adil, il y a toujours eu des zones difficiles. Il y a, après, la question, c'est les moyens, c'est ce qu'on y met. Aujourd'hui, en période de crise, quand les gens sont en plus grande difficulté, en plus grande souffrance, il y a forcément plus de souffrance. En plus, les premiers qui en souffrent, c'est les pauvres eux-mêmes, c'est les gens qui sont en difficulté. Donc c'est là où ça se joue. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut vraiment avoir un travail, effectivement. L'éducation, on parlait de l'éducation. Et aujourd'hui, il n'y a pas que l'école. Il y a aussi les acteurs sociaux. Depuis, Adil, depuis plus de 30 ans, on a bastonné l'éducation populaire. On a cassé tous ceux qui travaillent au lien social. On a réduit les budgets. Je vous demande au défi de trouver. Et on s'étonne qu'effectivement, aujourd'hui, la citoyenneté soit d'une préoccupation. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Moi, je dis juste... Moi, je dis pas que à tel endroit... Nous, on a des difficultés. Demain, on met un focus médiatique sur la ville. On va nous trouver plein de choses. C'est comme les problèmes de main courante qu'on va déterrer pour Catherine, c'est tout ça. Je laisse les gens... Il y a la loi qui doit fonctionner. Le droit doit fonctionner. Moi, je trouve sordide ces façons. Et on regarde lesquels médias qui utilisent ça et qui montrent ça en épingle. Et qui on stigmatise? Il y a eu un viol qui est dramatique, qui est terrible. Eh bien, on a mis les étrangers sont en danger. Et donc, il y a une espèce. Et on s'étonne qu'après, on voit arriver l'extrême droite en Italie. Mais c'est ce qui va nous arriver parce que, à force de monter en épingle des faits qui sont dramatiques, douloureux, dangereux, eh bien, on donne une image qui est tronquée de la société. Et par contre, on parle pas de toutes les solidarités. C'est comme les trains qui arrivent à l'heure. Il y en a plus et on en parle moins. Mais moi, je dis aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on fait parce que nous-mêmes, on est en train de créer les conditions de la décohésion, si je puis utiliser un terme impropre, de nos sociétés.
Mettre les mesquites et ensuite rapidement.
Alors d'abord, philosophiquement, historiquement, la violence a toujours existé. Voilà. D'accord. Je ne suis pas certain que les violences sont en augmentation. Par contre, ce qui est en augmentation, c'est le fait d'en parler à la télé, d'en parler dans les journaux, ce qui crée en fait une forme de psychose dans notre pays. On a l'impression qu'en fait, on est dans un pays violent, alors que ça a toujours existé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, on parle toujours des quartiers populaires, mais ces quartiers populaires, en fait, ne s'expriment pas. Ils n'ont pas le droit, en fait, de s'exprimer dans les chaînes mainstream. Alors, chez vous, il y a quand même, ils s'expriment, puisqu'ils téléphonent, mais enfin, ils peuvent s'exprimer, mais... Le problème, en fait, c'est depuis des décennies, en fait, on a mis de côté, en fait, le côté social. Ce qui fait qu'en fin de compte, ça génère quoi? Ça génère des violences, ça génère de l'incompréhension, sans compter l'extrême droite qui monte. Et pourquoi elle monte? Parce que maintenant, on a, alors sans la citer, on a une chaîne de télé mainstream qui quotidiennement, qui tous les soirs en fait fait des débats sur ces faits de société qui ont toujours existé, ce qui fait qu'en fin de compte, bah les gens qui regardent cette chaîne télé, alors sans compter même l'autre chaîne hein, qui parle les, en fait même de manière générale, les chaînes mainstream mettent en avant ces violences, ce qui fait que ça crée évidemment dans les foyers, dans les quartiers populaires, une forme de tension, une forme de stigmatisation, parce que c'est toujours les mêmes qu'on stigmatise, alors que les violences existent également dans les quartiers bourgeois, voire pire, les
elles
crimes.
Sont différentes,
voilà, elles sont différentes, mais le résultat est le même.
Pas du tout.
Le résultat est le même.
Pas du tout.
Alors,
on n'en parle pas.
Écoutons Rafik Temgari.
Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que tout simplement, c'est affreux de voir ces scènes de guérilla. Je dis bien guérilla, parce que c'est une violence urbaine qui devient de plus en plus, et c'est très souvent dans les mêmes zones. Et ça, je pense que l'ensemble des cartes de cartographie des hommes de l'ordre le démontre. Après, peut-être qu'il y a une faille. La faille, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes qui s'intéressent à la sécurité, il y a moins de personnes qui s'intéressent à la médiation au niveau de ces quartiers-là. Mmh. Il y a moins de solutions. Chose que oui, mais aujourd'hui, je cite un exemple. On a des quartiers dans des cités où c'est chaque soir des tirs de mortier.
Oui,
comment lutter contre ce genre de fait?
Non, mais pourquoi? Alors, je crois que vous connaissez Fawzi Lellouche. Il avait une association. Tu vois, justement, qui éduquait, mais bon, qui permettait d'accès à la culture des jeunes du quartier de Sevran, d'un quartier très très chaud, hein, très très chaud. Dès qu'Emmanuel Macron est arrivé à pouvoir, on lui a coupé tous les budgets. Ce qui fait que, il n'a pas pu continuer.
Et deuxièmement, on a supprimé
la police de proximité également.
Il y a la police municipale, il y a les médiateurs.
Mais les médiateurs n'existent plus en fait.
Si, ça existe.
Ils ont tous supprimé tous les budgets.
Le rôle des élus locaux. Il faut faire une priorité.
Bah, apparemment, le rôle des élus locaux
sur la sécurité,
c'est quoi la culture? Mais le problème, je ne peux pas. Quand on fonctionne, Rafik, je vais finir. Quand on fonctionne en priorité, en fait, il n'y en a plus de priorité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de priorité. C'est parler d'un maillage. Aujourd'hui, on le voit bien. Aujourd'hui, c'est le maillage qu'on doit mettre. Ensuite, le problème de l'État financier. À l'époque, il y avait le facile. On a réduit les aides.
Nous vivons le même problème, c'était il y a 10 ans.
Mais on peut pas, parce que les solutions, on prend l'argent aux contribuables. On peut pas tuer quand même nos populations. Il y a un moment donné, l'État qui a de l'argent, il faut qu'il mette sur la table. Mais les compensations de la réforme de la taxe professionnelle, on n'en voit rien.
Qu'est-ce qui paye en premier? C'est le citoyen qui paye en premier. La voiture qui est brûlée, ça appartient très souvent à la petite retraitée.
Est-ce que tu t'es interrogé pourquoi il y avait cette violence? Est-ce que tu t'es interrogé
aujourd'hui, il faudrait vraiment investir dans ces un plan Marshall pour les cités qui n'a jamais été fait, qui a toujours été communiqué, etc. Mais aujourd'hui, c'est le rôle des élus locaux de trouver des solutions, de trouver des subventions, de trouver de l'argent.
Et pourquoi
créer?
Pourquoi il y a des violences dans les quartiers populaires, à ton avis? Pourquoi certains jeunes, évidemment une ultra minorité, sont violents? Quelles sont les causes?
La première, ça vient de l'éducation. Pour moi, c'est une des premières causes. J'ai énormément côtoyé des jeunes et très souvent, il y a un abandon de l'autorité familiale où on laisse les enfants livrés à eux-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est une des premières causes.
La
plupart des foyers dans les quartiers populaires sont précaires.
Maître Limeskid, pour vous, c'est qui?
La violence économique, déjà. Alors effectivement, peut-être certains parents, pas tous, on délaisse l'éducation de leurs enfants, mais je pense pas qu'on devient pour autant violent. Il y a la violence économique, il y a la violence sociale, et je crois que tu as oublié qu'il y a la discrimination, la stigmatisation par les forces de l'ordre, par la police notamment.
Je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord du tout.
Parce que tout dépend des villes où est-ce que vous êtes situé. Peut-être.
Non. Mais aujourd'hui, la BAC. T'as déjà vu une intervention de la BAC dans les cités
contre les personnes qui font des actes.
Il y a beaucoup de provocations.
Contre la racaille, c'est pas du tout.
Mais contre la racaille, il y a des provocations policières.
Je pense que j'ai un faciès que tu sais très bien qui n'est pas blanc aux yeux bleus et que j'ai jamais été arrêté par la police.
Donc, oui, mais ça n'a rien à voir. Alors, déjà, tu es d'une autre génération.
C'est pas une
déjà, génération. Tu peux pas comparer ta situation.
Tu t'es jamais fait arrêter par la police.
Non, non.
Donc, mais à certains moments, il faut arrêter toujours de dire que c'est à cause de la discrimination.
Si.
Aussi,
si,
à cause du comportement.
Akli Mellouli, je suis contraint de lancer la pub. Akli Mellouli.
Oui, il y a effectivement, faut pas dire c'est pas ça, c'est pas si. Il a raison, David, il y a plein de critères. Merci. Et aujourd'hui, les familles, quand on dit c'est l'éducation, les familles sont démissionnaires. Les familles, elles font ce qu'elles peuvent. Il y a des couples, il y a des monoparentaux qui travaillent, qui ont toujours les emplois les plus difficiles. C'est-à-dire qui rentrent à minuit, qui ont 2 heures de transport. Tout ça, on l'oublie, parce que ça, faut pas l'oublier. Et on dit aux parents, assumez votre rôle de parents, alors qu'ils ont même pas le temps et qu'ils ont un travail de fou, qu'ils ont des travails les plus durs, les plus difficiles, les trajets les plus longs, les logements les moins, les moins salubres, les moins étanches, on l'a vu pendant le Covid.
On a réfléchi.
Mais
je suis désolé de dire ça.
Mais attends. La problème d'une société, c'est pas une personne. On réfléchit ensemble. Oui. Dans une ville, on vit ensemble. Bah, la société, faire société, c'est le faire ensemble. Il faut arrêter de jouer au mistigri. Effectivement, toutes ces causes-là. Non, mais attendez, toutes ces causes-là existent. Et aujourd'hui, les plus précaires cumule effectivement tous ces éléments-là, notamment le transport, le logement de pas de qualité, tout ça, voilà. Et on va le voir aussi avec la crise énergétique. Ceux qui ont les passoires énergétiques, c'est les pauvres, comme par hasard.
Je marque la pause, s'il vous plaît, parce que là, évidemment, il faut que tout de suite, je la lance, et on se retrouve dans une poignée de minutes. Très intéressant, très très intéressant. 0153 48 3000, n'hésitez pas vous aussi. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
19h24, si vous venez nous le rejoindre, sachez-le, les informés, c'est vous qui êtes chez vous, partout en France. Numéro du standard.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vous le dis en permanence, c'est vous qui êtes prioritaire. Et comme vous êtes beaucoup à nous appeler, eh ben j'ouvre l'antenne parce qu'ils veulent échanger avec vous, les débatteurs et les auditeurs. Jamila d'Aix-en-Provence. Jamila, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Jamila ?
Je suis auto-entrepreneur dans le nettoyage.
Vous avez... Tout se passe bien ?
Tout se passe bien.
Bon, on vous écoute.
Alors, je voulais intervenir au sujet de la BAC. Il y a un des deux monsieur qui disait que non, il faisait rien.
Maître Lubelskid qui en faisait référence.
Non, c'est voilà. Rafi qui disait qu'il
était la BAC. Non, ils sont très très violents dans les contrôles. C'est abusé, en fait, ils abusent beaucoup.
C'est maître Lubelskid qui le disait. Oui. Il vous écoute là.
Mais moi, je n'étais pas
là. Il est prêt à échanger avec vous.
Qui disait qu'il était pour la BAC ou que la BAC faisait pas trop de mal.
Je crois que notre avocat, il est plutôt contre la BAC. Hein.
Ouais. Ah ben moi aussi, parce qu'ils sont pas très très cool dans leur contrôle. Ils sont violents, surtout quand on est un peu basané. Ils sont pas sympas.
Quoi. C'est ce que je disais.
Madame, si je peux me permettre, est-ce que vous avez subi un contrôle de la BAC?
De la BAC, de la police en général. Monsieur, j'ai amené mes enfants à l'école.
Et ils ont été
j'avais l'arme de... Pardon ?
Ils n'étaient pas sympas avec vous ?
Ils sont jamais sympas.
Pas du tout, j'avais leur arme pointée face à ma voiture. Pourtant, je m'étais arrêté quand ils m'ont arrêté.
Ils font leur métier, quoi, c'est tout.
Est-ce que vous savez
sur eux, hein, ils font leur métier.
Est-ce que vous savez que vous pouvez écrire à la police des polices aussi ?
Oh là là.
Non, mais attendez, je finis, monsieur. Quand j'aurais demandé pourquoi ils pointaient leur arme sur ma voiture, ils m'ont dit qu'en cas de fuite, ils tiraient. Mais enfin, j'avais deux enfants en bas âge. J'avais pas du tout envie de fuir, hein.
Ouais, et ça vous a...
C'est pour vous dire qu'ils sont très violents. Non, ils sont violents.
Mais je pense qu'il faudrait signaler. C'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui signale, il n'y a personne qui remonte les informations.
C'est faux.
Donc, non, je ne dis pas que c'est personne, mais en grosso modo,
c'est faux.
Il faudrait vraiment qu'on en...
C'est comme on appelle l'IGPN chez les avocats, la blanchisseuse.
Oui, mais bon, il faudrait quand même...
Elle blanchit les policiers. Pas.
Donc demain, si vous avez un souci avec la police, je pense qu'on a la police des polices.
Mais les policiers sont assermentés et leur parole va toujours prévaloir.
Mais chez exactement. Le problème, c'est que eux, ils ont toujours raison, en fait. Donc du coup, personne ne dit rien.
Merci Jamila.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Salut Jamila.
Aix-en-Provence, vous avez vu. Non, mais elle a raison, cette mère de famille. C'est une réalité aussi. Elle fait part de ça, évidemment, de ce qu'elle a vécu avec ses enfants.
Je comprends.
Zoé, bonsoir, vous nous appelez d'Argenteuil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Zoé ?
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Zoé ?
J'ai une société de déménagement.
Tout se passe bien ? Ça va ?
Très bien, très bien.
Allez, on vous écoute, mon cher Zoé.
Oui, en fait, là, j'ai entendu en fait un autre débat qui parlait en fait de la police. Bon. Ça, en fait, j'ai pas appelé par rapport à ça, mais je peux répondre quand même. Je peux vous dire quand même, oui, ça fait 20 ans que je suis en France, j'ai jamais été agressé par la police. Si on est calme, si on est, en fait, j'ai jamais été connu par la police.
Ça fait plaisir à
jamais. Ça fait 20 ans que je suis là.
Tu habites où? Tu habites où?
Argenteuil.
Je suis à Argenteuil, dans un quartier chaud, mais j'ai jamais été connu à ce jour.
Très bien, super.
Oui, si on se fait contrôler, normal, si on parle gentiment aux policiers, ils nous répondent gentiment. Si on leur parle agressivement qu'on est, voilà, qu'on connaît la loi, c'est automatiquement en fait qu'ils réagissent. Bon. C'est tout à fait normal. C'est normal.
Alors, Zoher, vous aviez un autre sujet.
Oui, parce qu'en fait, là, j'ai entendu tout à l'heure, en fait, il y avait quelqu'un qui disait que, soi-disant, en fait, les parents qui travaillent dur, ils n'ont pas vraiment le temps pour éduquer leurs enfants.
Ça, c'est
non. Non. Non.
Vous lui répondez. Allez-y, vous écoutez.
Mon père, 11 ans. C'est pendant dur. 11 ans. Il rentrait à minuit. Il sortait à 3 heures du matin. On le voyait rarement. Rarement. Mais rien n'empêche qu'il m'a éduqué. Rien n'empêche qu'il m'a éduqué. Pendant 11 ans, on ne le voyait pas.
À qui vous répondez quoi?
J'ai pas dit que les gens qui étaient au truc, ils n'ont dit que pas largement, c'est la verge, j'ai dit qu'effectivement, les gens qui étaient les plus en difficulté avaient le plus de temps de trajet, tout ça, donc moins de temps pour travailler dans ça. Ça veut pas dire qu'ils s'intéressent pas. C'est que c'est là où je parlais de la complexité, parce que souvent, c'est ceux qui ont les moyens qui font la leçon, tout ça. Donc, à un moment donné, il y a aussi l'organisation. Et moi, mon père aussi, il a travaillé dur. Mais j'avais ma mère qui était au foyer. Donc, ça, ceci compensait cela. Donc, il faut, je dis pas que les gens, enfin, attention, parce que c'est grave de dire ça, les gens qui sont en difficulté, etc., s'intéressent à leurs enfants. Tous les ans, c'est à leurs enfants. Le problème, c'est Zoher. Le temps qu'ils ont pour passer avec eux.
Zoher?
Bah, mon père, il n'a pas passé beaucoup de temps avec moi. Franchement, je vous le dis. Je vous le dis, en fait, il fait un travail dur. C'est un routier. Mais rien n'empêche que le peu de temps qu'il avait, il a pu quand même, il a su, en fait, trouver, la lumière, en fait, pour m'éduquer. Pour vous dire, en fait, je vous raconte juste un petit truc vite fait. À 22 ans, je venais juste de finir mon service militaire. Vraiment mon frère, mon grand frère.
Vite fait, parce qu'on doit rentrer, mon cher Zoher. On n'a pas le temps. Allez-y, vite, 30 secondes.
Le fait que mon père, comment il m'a éduqué, mon frère, à 22 ans, il m'a giflé devant tout le monde parce qu'il m'a vu avec une cigarette, et ben j'ai baissé mes yeux devant tout le monde.
Merci Zoher, merci voilà. Infiniment. Tiens, Amadou, merci Zoher, je suis obligé de vous. Malheureusement, vous savez, je rends l'antenne dans quelques secondes. Amadou, bonjour, vous êtes de Grenoble. Bonjour Amadou.
Bonjour à vous, bonjour à Hassim, qui a dit les parents pour l'éducation des enfants. Il y a deux sujets qui sont intervenir sur l'éducation à sa santé. Donc, sur l'éducation, effectivement, il ne faut pas généraliser tout le monde. On compare en fait le malheur de son enfant, mais l'enfant c'est vrai qu'il y en a qui travaillent conditionnellement et qui sont fatigués, qui travaillent la nuit, mais ça ne veut pas dire que le parent ne se coupe pas. Le parent, il faut lui monter sensibilisation, mais c'est pas tapé, c'est pas massacré. Il y a le frère aussi, il y a la femme qui est là. Mais quand il s'agit le frère Hassan Hussein, c'est vrai que le coraniste, la presse du Coran, Dieu, comment dirais-je, il aime sa création, il a dit honorer ma création, mais quelle façon, je ne suis pas en savoir, ni critiquer, c'est un esprit de critique, un esprit de
merci.
Du point théologien.
Merci, mon cher Amadou.
Lui, c'est simplement.
Le merci. Point
des preuves.
Amadou, merci. C'est déjà la fin de l'émission, vous rendez compte. Merci, Amadou, passez un bon week-end. Akli Melouli, à très bientôt.
À très bientôt, merci Adil.
Maître David Libeskind, à très bientôt.
Vendredi prochain,
absolument. Rafik Temgari, à bientôt.
Avec grand plaisir.
Merci à Giorgio Giovanni.
Grazie Giovanni.
Grazie mille.
Et on ne lâche
Giorgio pas Armani.
C'est ça. Merci à Giovanni, à la réalisation. Merci aux nombreux auditeurs qui chaque soir nous font plaisir et l'honneur de venir nous suivre aux informés. Milan Nedman à 20h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent... Vanessa aussi à 21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Les programmes continuent, tout le week-end d'ailleurs. À lundi sans faute, mais surtout...
On ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.